5, 4, 3, 2, 8 et top.
L'auberge espagnole sur Divergence FM, vie associative, culture, science, environnement, tout y passe et tous y passent.
Un artiste qu'on va dire au sens du terme large.
C'est la grosse nouveauté de l'économie sociale, a du sens.
On est loin de l'abrogation totale des gaz de schiste en France.
Moi, trash, ça va être pégueux, je pense.
L'idée, c'est de sortir de l'ordinateur.
Tout le truc que je kiffe.
Jardin sec, pourquoi le faire? Quels sont les coûts?
On reconnaît la langue du cinquième élément.
Vraiment un mur de guitare, comme un souffle atomique.
Un public habitué.
C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les entrepreneurs d'identité.
Bah, c'est super, on voit que les motards se mobilisent.
C'est gratuit et on ne vend rien, c'est neutre, donc profitez-en.
L'Auberge espagnole, une émission de la rédaction de Divergence FM, présentée par Gilles Couget.
Tout l'an 2012, ça va se travailler, puis début 2013, on lance ça en France.
Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette auberge espagnole du 9 avril 2013. Après une petite pause musicale, c'est Nicolas Quintin de l'agence locale de l'énergie qui viendra nous entretenir du café climat de ce soir. Un café climat réglementaire autour de la nouvelle réglementation thermique. Et puis ensuite, ce seront deux membres du Parti Pirate qui nous rejoindront. Le Parti Pirate section Languedoc-Roussillon. Romain Mauger, porte-parole, et Lucas, secrétaire de la section Languedoc-Roussillon, viendra nous parler de la réorganisation de cette section, comment ça marche. Et puis un retour sur le rapport Jospin sur le cumul des mandats qui semble être à présent enterré. En tout cas d'après eux, mais pour l'heure un petit peu de musique pour se mettre en jambes.
When the crushing voices are just another part of you, it's time to put down your TV. When the bedsores don't even bother you, open the shades a peek. Whoa, lazy man, you broke the laws of the gods. Whoa, oh, lazy man, you broke the laws of the gods. If you lay awake at night, then you shit where you sleep. Don't get a job, go get a few. Don't come home for a week.
Et ça surprend, cette petite chanson de RJ, des deux, Law of the Gods, la loi des dieux. Mais il n'y a pas que les dieux qui font des lois, il y a aussi les législateurs et ils en font pour vos maisons. On est là avec Nicolas Quintin de l'agence locale de l'énergie de Montpellier. Bonjour.
Bonjour.
Alors ce soir dans Café Climat, autour de la fameuse NRT, et non pas la RNT, c'est la nouvelle réglementation thermique dont on avait déjà parlé lors de nos précédents rendez-vous. Mais c'est vrai que peut-être que ce Café Climat est là pour répondre aussi à une certaine angoisse du propriétaire quand il doit rentrer dans les arcanes de la législation, se taper des textes biscornus, rédigés par des juristes qui ne comprennent rien à l'architecture ou je ne sais. Est-ce que c'est pour répondre à une certaine angoisse quand même, parce que la France est quand même un des pays où la paperasse est quand même sacrément reine.
Alors effectivement, par rapport à ça, bah, il y a une annonce gouvernementale là, dans le plan logement annoncé par le président là, récemment. Il y a un moratoire là, sur au moins 2 ans des normes, de l'aspect normatif dans le bâtiment. Parce que les professionnels ont fait remonter ça. Dire, ok, stop, voilà, on s'adapte aux handicapés, on s'adapte à l'aspect thermique, voilà, ce qui est entièrement légitime. Hein. Mais l'idée, voilà, c'est point trop d'infos.
Un moratoire, on rappelle, hein, c'est on gèle le truc. Voilà. Voilà.
Mais malgré tout, avant ce moratoire, depuis le 1er janvier 2013, là, donc il y a une obligation vraiment généralisée maintenant pour tous les candidats à ce qu'on appelle à l'acte de construire, hein, c'est le terme utilisé. Mais en gros, voilà, tout ce qui est construction de logements notamment, donc de la maison individuelle au bâtiment type immeuble, en fait, donc, ces nouvelles constructions sont soumises à une nouvelle réglementation thermique qui en fait vient un petit peu généraliser ce qu'on appelle les bâtiments basse consommation. Mmh. Ça devient un petit peu obligatoire. Quand il y a 2-3 ans, c'était un petit peu innovant. Là, ça devient vraiment généralisé, c'est un petit peu obligatoire. Donc, enfin, c'est pas un petit peu, c'est carrément obligatoire, réglementaire. Et donc, la profession est en train de s'organiser un peu par rapport à ça, parce que ça implique des méthodes de travail un petit peu différentes sur les chantiers. Ça implique aussi, et justement, ce sera un peu l'idée, c'est qu'au niveau au stade du dépôt de permis de construire, avant, je fais un peu simple, on vous demandait un peu la couleur des murs, la taille, un peu la forme de l'habitat. Et on s'en tirait comme ça, et ensuite on allait optimiser les choses, améliorer pour que ça consomme moins. Maintenant, en fait, il y a des notes, des éléments techniques à fournir en amont, donc avant de poser le permis de construire, qui vont déjà, si vous voulez, impacter la consommation d'énergie future. Mmh. Je pense par exemple à l'aspect bioclimatique du projet, donc la part aux énergies solaires, ce qu'on appelle passives, hein, donc
capter l'énergie chaleur, solaire.
Alors justement, le passif par rapport à l'actif, l'actif c'est les systèmes techniques qu'on va pouvoir rajouter pour compenser les pertes d'énergie. Donc typiquement le chauffage, un système de production d'eau chaude sanitaire. Là, on va s'intéresser vraiment à l'enveloppe. Et déjà, sur un projet au stade du permis, on peut dire si oui ou non, il sera performant ou pas. Mmh. Et justement, là où ça devient un petit peu, à la fois intéressant, je dirais, pour le cerveau, mais ça bouleverse un peu les habitudes, c'est que finalement, avant, votre projet était tout biscornu, donc a priori pas très thermiquement performant, d'un point de vue, voilà, mais on pouvait rattraper le coup avec de l'isolant, avec un bon vitrage, avec un bon système de chauffage. Maintenant, le truc, c'est qu'on est descendu tellement bas en termes de niveau de consommation, ce qui est demandé, la basse consommation, c'est que bah, voilà, le bâtiment, s'il est tout biscornu, on aura du mal à rattraper le coup avec des systèmes techniques. Donc, il y a l'aspect conception aussi, d'où l'intérêt déjà de donner ces éléments-là au niveau du dépôt du permis de construire.
Donc c'est quoi? C'est les murs, les fondations, le point de départ, quoi.
Alors oui, en fait, il y a un indicateur, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il s'appelle le B-Bio, hein, c'est le besoin bioclimatique. Et déjà, ça permet de dire, bah, ce bâtiment-là, il est bon ou il n'est pas bon d'un point de vue thermique, quoi. L'exemple classique, hein, c'est des bâtiments qui sont complètement ce qu'on appelle développés. Vous savez que plus on se rapproche, alors sans aller à l'extrême, qui serait l'igloo, qui serait un optimum, je dirais, de rapport volume-surface par rapport à la consommation d'énergie. Si on a un bâtiment qui est très étalé, avec plein de décrochages, des ouvertures, des prises au vent, bon, bah, voilà, on a tous fait l'expérience où il fait froid, où on a plutôt tendance à se compacter, voilà, pour limiter la déperdition de chaleur. C'est exactement le même principe dans le bâtiment. Et du coup, voilà, déjà, ça donne un indicateur. Et puis ensuite, bah, là, on sait bien qu'on aura du mal à rattraper le coup, entre guillemets, et pour le coup la réglementation donne des seuils, et donc le projet passe ou passe pas déjà au niveau du permis de construire.
Ça pourrait assainir aussi d'une façon générale les pratiques, puisque pour ceux qui ont la chance d'avoir des murs épais en pierre de Castries, c'est-à-dire une pierre très remplie d'air, on va dire, bah, voilà, ça a certains avantages l'été, hein, ça, si on calfeutre tout, ça garde le frais, alors que bon, bah, y a eu une période de construction où c'était plutôt le contraire, hein, on avait froid en hiver et chaud en été, repenser le bâtiment dès le départ, imposer certaines normes, ça va forcément sur le long terme avoir un effet plutôt positif.
Ah, exactement, ça va dans le bon sens, effectivement. Là, l'application concrète, là, c'est que là, ça va faire que les bâtiments récents vont consommer quasiment 4 fois, 5 fois moins parfois que des bâtiments standards déjà existants, donc c'est plutôt positif. Après, sur la pierre de Castries, hein, qui vous est chère, Gilles, je sais que c'est plutôt frais, alors ça c'est plutôt l'aspect, ce qu'on appelle l'inertie thermique, hein, on garde la fraîcheur pendant l'été, mais ce qu'on constate, c'est que ces bâtiments en pierre de Castries, là, ils sont frais tout le temps, en fait. Ils sont frais l'été, ce qui est agréable, frais en demi-saison, pourquoi pas, mais souvent ils sont frais aussi l'hiver, et donc la difficulté de chauffer. Donc après, il y a toujours un compromis à trouver, mais attention, hein, une précision, cette réglementation thermique, là, elle est vraiment applicable que sur le neuf, donc sur le nouveau projet. Donc l'existant, pour l'instant, lui, n'est pas encore concerné. Il y a des aspects réglementaires aussi qui concernent sur la consommation d'énergie, mais qui sont beaucoup moins contraignants. Et par contre, il y a un groupe de réflexion là, qui est monté au niveau national, qui en fait se pose la question de l'obligation de rénovation énergétique des logements existants. Et ça, politiquement, c'est un petit peu c'est un gros morceau. Voilà, donc il y a une réflexion qui est engagée. Je pense aux copropriétés, notamment. Ça bouge beaucoup dans ce domaine-là. Et c'est vrai que les copropriétés ont vu arriver les ascenseurs, l'obligation de rénovation des ascenseurs. Il y a eu de l'incitation d'abord, et puis ensuite c'est devenu obligatoire. Bon, ben voilà, il y a peut-être des perspectives similaires sur la copropriété. Donc, on incite bien sûr nous à l'Agence locale de l'énergie et puis au-delà sur les territoires à se poser un peu ces questions-là, et puis à rencontrer effectivement les personnes idoines pour commencer à anticiper un peu ces projets.
Voilà, parce que les nouveautés qui découlent de cette nouvelle réglementation seront évoquées. Mais après, il y a la question, combien cela coûte-t-il ? Quel professionnel solliciter ? Sachant que tous ne se mettent pas à l'heure, entre guillemets, à la même vitesse.
Exactement, et puis sur l'aspect coût aussi, ce qui va intéresser, je dirais, clairement, évidemment, les gens. Je pense à une maison individuelle, admettons, pour les gens qui ont la chance, entre guillemets, d'aller sur ce champ-là. Imaginons que, on a des études, ces fameuses études thermiques réglementaires qui sont demandées, on a un panel de 150 à 2500 euros. Donc voilà, on va faire un peu le point ce soir pour dire comment ça coûte vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est en lien sur l'aspect réglementaire. Et puis on a aussi une personne du service instructeur des permis de construire de l'agglomération. Donc une bonne vision, je dirais, un petit peu de tout ça, et puis surtout de la disparité des projets que l'agglo voit arriver. Donc ce sera intéressant aussi d'avoir son point de vue.
Justement, ça peut engendrer pour l'étude elle-même, on va dire, un léger surcoût sur le bâtiment lui-même, ce qui n'est pas forcément le cas, mais ça peut aussi engendrer, j'imagine, un surcoût par rapport à des méthodes moins performantes.
Oui, effectivement, il y a les prix, les ordres de grandeur en tout cas qui reviennent souvent. On a souvent les 10-15% de surcoût là, autour de 10%, mais ça, je dirais, c'est à deux projets standards, quoi. Donc un basique et à basse consommation, pareil, en basse consommation. Mais l'idée, justement, c'est ce qu'on a évoqué précédemment, c'est de travailler aussi sur l'enveloppe. Et moi, plus j'ai un bâtiment un petit peu plus compact, un peu plus performant, au final, où il y a des économies aussi de prix par rapport à l'aspect technique, parce qu'un bâtiment super biscornu, un peu avec des décrochages de partout, ça coûte plus cher à faire aussi. Donc voilà, il y a ces choix-là. Et puis après, pour le coup, là, c'est une réglementation qui va plutôt dans le bon sens sur la maîtrise des consommations d'énergie. Donc il faut aussi rappeler ce but-là, on n'est pas là pour embêter les gens. C'est pas nous qui pendons les réglementations, mais cette réglementation-là, elle va plutôt dans le bon sens. Elle est là pour généraliser la basse consommation. Donc, c'est plutôt positif. Après, effectivement, il faut voir concrètement ce que ça donne sur un projet.
Voilà, alors le surcoût que j'évoquais, il est forcément ensuite amorti, voire même il est entre guillemets rémunérateur sur les années où on va finalement moins consommer, parce que quand on voit l'augmentation du marché de l'énergie, forcément.
Vous faites bien de le rappeler, effectivement, on est dans un contexte de toute façon de raréfaction des ressources énergétiques. À moyen ou long terme, on le voit, si on prend un peu de recul sur les 10-20 ans en arrière, le prix de l'énergie n'a fait que vraiment progresser et d'augmenter. Là, le gaz s'est un peu calmé, mais il était monté de très haut, de parti de très bas plutôt il y a quelques temps. Donc voilà, dans ce contexte-là, on peut se dire qu'effectivement, cet argent qu'on met éventuellement dedans, on récupère sur l'économie de charge qu'on va pouvoir avoir en termes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. Et puis au-delà, c'est peut-être dans ces bâtiments-là, dans 10 ans, ils s'en sortiront bien mieux que des bâtiments standards qui consomment 5 fois plus.
Donc c'est ce soir de 18h30 à 20h à l'Agence locale de l'énergie de Place Paul Bec, autour donc de cette nouvelle réglementation thermique. Il y aura les gens de la LE et puis donc des intervenants. On peut rappeler qui sera présent pour ceux qui nous écoutent, qui se disent mais il faut que j'y aille.
Oui, alors donc je l'ai évoqué, la responsable du service du service instructeur, donc des permis de construire à l'agglomération, et on a également un bureau d'études thermiques spécialisé donc qui propose ses services, mais on n'est pas là pour faire de la pub pour lui, on est plutôt là pour qu'il nous explique un petit peu concrètement ce que c'est que son métier, et puis voir un peu la fourchette de prix entre 150 et 2500, il y a peut-être un juste milieu qu'on peut trouver.
Nicolas Gatter, merci beaucoup. On retrouve évidemment toutes ces informations sur www.ale-montpellier.org. Le prochain Café Climat, il est déjà, j'imagine, fixé ?
Il est fixé, ce sera le 11 juin, et là on va s'intéresser aux petites éoliennes urbaines. Parce que on a beaucoup de questions.
Ouais, il y a beaucoup de débats autour de ça.
De débats, de démarchage commercial, un peu abusif parfois. Donc on fera un petit peu le point pour dire que le petit éolien en milieu urbain, c'est peut-être pas le meilleur placement qui soit.
Oui, ça sert pas forcément à grand-chose.
Voilà,
peut-être à recharger son téléphone.
Il y a un intérêt, ça produit un petit peu, mais ça pourrait produire beaucoup plus ailleurs. Donc peut-être si on a de l'argent à mettre là-dedans, on va peut-être le mettre dans autre chose qui est plus efficace.
Très bien, on vous souhaite un excellent Café Climat ce soir. On va se quitter avec le peuple de l'herbe qui nous chante Down by Low, qui n'a rien à voir avec le film du même nom. Nicolas, merci, au revoir.
Merci beaucoup.
We would like to play another piece. At one time was a popular song. It has a feeling a little bit of an old piece based on the blues.
Les excellents, le peuple de l'herbe, ça nous rajeunit pas. C'était un assez vieil album. Ils en ont sorti un il y a quelques mois à peine. On s'en fera probablement l'écho. Non, quelques semaines à peine. Une prochaine nouveauté en divergence, probablement. À présent, c'est avec Romain Mauger et Lucas, respectivement porte-parole et secrétaire de la section Languedoc-Roussillon du Parti Pirate, que nous sommes. Bonjour.
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 Alors, on est là pour aborder tout d'abord la réorganisation du Parti Pirate. C'est pas uniquement au niveau local, c'est partout, au niveau national. Pourquoi ?
Alors, on va dire que ça s'est imposé parce que le Parti Pirate, par essence, n'aime pas les structures verticales et hiérarchiques pyramidales. Donc, lors de l'Assemblée Générale d'octobre 2012, il y a eu un vote qui a été donc fait par les adhérents. On a décidé de totalement replanifier le système, où on passe en fait d'un système assez classique avec deux coprésidents. Et aujourd'hui, on arrive du coup avec plus du tout de président à tête de cette organisation, et uniquement l'émanation des différentes sections régionales du Parti Pirate en France. Donc c'est directement les adhérents au niveau local qui font vraiment la politique du Parti Pirate. Mmh.
C'est une rude tâche, hein, même au niveau théorique, d'arriver à maintenir l'horizontalité, la transversalité, et puis néanmoins, pour communiquer, des fois il faut des porte-parole, ce qui est ton rôle ici, pour préparer des dossiers, etc. Il faut des secrétaires, voilà, pour gérer un petit peu les finances, il faut des trésoriers, des trucs classiques qu'on retrouve dans toutes les entités associatives ou dans les partis politiques. Donc, quelque part, il faut concilier, on va dire, la verticalité et l'horizontalité. Est-ce que ça fait l'objet d'une réflexion au niveau national dans le Parti Pirate ?
Alors, c'est vraiment tout l'enjeu, hein, évidemment, pour faire fonctionner le Parti Pirate avec cette coordination nationale et tous les différents membres. On a un bureau avec justement deux co-porte-parole, deux co-secrétaires, etc., pour essayer un peu de multiplier les personnes qui peuvent travailler sur le sujet, avoir plus de réflexion. Il y a une réflexion qui s'était déjà instaurée avant justement le vote, histoire de savoir ce qu'on faisait. Et depuis, on est vraiment, je dirais, en test, en train de voir comment est-ce que ça fonctionne. Et c'est plutôt pas mal sur le modèle. Après, oui, c'est sûr que c'est pas évident tous les jours. Et puis, le Parti Pirate, c'est ça, on tâtonne, on essaye des nouvelles solutions pour essayer un peu de réformer la vie politique.
Mmh. Le tout fait uniquement par des bénévoles, et c'est très bouffetant, c'est très... contraignant, engageant, tout ça.
Et oui, mais c'est pour ça qu'on s'engage, c'est et pour voilà. S'engager. Justement, alors, en ce moment où on voit Mélenchon et Joly qui appellent une manif pour la 6e République, etc., quand vous voyez sur le blog du Parti Pirate de Montpellier, alors j'imagine que les adresses aussi vont probablement changer, on va y revenir, où vous mettiez sur le truc « Notre démocratie est obsolète », cette idée, oui, selon laquelle, finalement, que ce soit les modèles économiques ou les modèles démocratiques qui sont les nôtres, on va dire, sont directement hérités d'une part de la révolution industrielle. Là, ça fait déjà 150 balais. Ça commence sérieusement à sentir la naphtaline. Et puis, les modèles économiques aussi. Et puis, les modèles, on va dire, démocratiques, on va dire, oui, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale pour la République qui est la nôtre actuellement, voire un petit peu plus tard. Donc, effectivement, il y a besoin de changer quelque chose. Et puis, quand on voit aussi récemment les problèmes, de conflits d'intérêts, de corruption, etc. On a le sentiment que même le plus probe des hommes, une fois qu'il est aux affaires, il peut pas s'empêcher. Ou alors ça serait autre chose, ce serait que le pouvoir perverti, ou alors qu'il faut être pervers pour avoir le pouvoir. donc effectivement, il y a un besoin qui se sent pas uniquement dans le Parti Pirate, qui s'inscrit, on va dire, dans vraiment une histoire sociétale plus large. À ce titre, est-ce que vous avez des prises de position qui sont les mêmes que dans d'autres partis que je citais tout à l'heure, ceux qui appellent justement une 6e République. Donc là aussi, il pourrait y avoir une convergence.
Oui, pour moi, l'exemple le plus simple, c'est un acte qui s'est passé la semaine dernière. C'est-à-dire que le 4 avril dernier, donc c'était jeudi dernier, le 4 avril, il y a eu notre journée d'action nationale du Parti Pirate. C'est un petit peu le jeu de mots avec ces 404, 404 Democracy Not Found. Ouais. Donc vous voyez un petit peu l'analogie, où on invitait en fait toutes les personnes de la France par Internet, ou lorsqu'on a pu le faire dans les villes selon notre mobilisation locale, etc., à venir nous dire qu'est-ce qui trouvaient qu'il y avait comme problème dans la démocratie et quelles solutions est-ce qu'ils aimeraient bien avoir mises en place. Et à la fin de cette journée-là, à 23h59, le 4 avril, le Parti Pirate a diffusé un communiqué de presse où on appelait à réunir une constituante. Voilà, c'est, y a un gros besoin de réforme. La 5e République a bien rempli son rôle dans l'après-guerre où il fallait reconstruire, etc., avec un pouvoir très centralisé. Aujourd'hui, on arrive à vraiment une révolution des usages, des pratiques, de l'économie, etc. Ça se voit tous les jours, on est quand même sur une fin de vie du capitalisme comme on voit actuellement. Moi, je suis en train de lire un bouquin super intéressant de Jérémy Rifkin sur la 3e révolution industrielle, qui part du principe que, vu qu'on aura bientôt des énergies décentralisées, renouvelables, des systèmes décentralisés avec l'Internet, etc., l'économie va forcément s'adapter. Une économie où on va tous participer ensemble et collaborer au lieu de se faire concurrence. Et c'est vraiment ce qui est en train d'arriver au final dans les politiques des États. Ça met beaucoup de temps, ça affronte d'anciens mécanismes, des sociétés qui étaient vraiment organisées de manière pyramidale, parce qu'avant, il fallait être très organisé pour mettre sous le capital un endroit, pour prendre le pétrole, etc. C'est en train de changer. Donc nous, on fait partie de ce changement-là, et effectivement, il y a des points comme ça où on est vraiment convergent avec d'autres partis, hein, c'est sûr et certain, avec les écolos, avec Mélenchon, comme vous disiez, sur une scène publique. Après, à savoir si chacun veut vraiment faire la même chose, c'est encore autre chose.
Est-ce que, alors, tu fais allusion aux questions d'Internet, il y a beaucoup de gens qui, alors surtout dans le libre, alors comme nous à Divergence, on est des libristes, forcément, on entend ça souvent, à tort ou à raison souvent, puis peut-être aussi d'une certaine façon à tort, parce que on peut pas du jour au lendemain, d'une part, tout changer, hein, les grands changements se passent à l'échelle de l'histoire et non pas à l'échelle d'une vie d'homme. Et d'autre part, le parallèle entre ce qui se passe sur le réseau des réseaux et puis ce qui pourrait se passer dans nos appareils démocratiques, il y a un petit peu d'angélisme là-dedans, puisque même le réseau, on sait qu'aujourd'hui, c'est une guerre, hein, pour la neutralité du net, dont on parlera jeudi d'ailleurs, mais c'est une guerre aussi pour les modèles économiques, etc. Alors, c'est vrai qu'on a vu il y a 6 mois de ça... Des officiels, des gens qui écrivent des super rapports à l'ONU, qui notamment sur la base économique du logiciel libre et tout ce qui va autour, qui disaient effectivement c'est intéressant. Donc quand l'ONU se met à pondre des rapports de 300 pages sur les nouveaux modèles économiques qui ont cours dans le logiciel libre et qui pourraient effectivement, c'est plutôt encourageant. Mais d'un autre côté, on sait que ceux qui ont les plus gros canons aujourd'hui, ceux qui se battent, qui s'arc-boutent sur le modèle ancien, ils ont plus de flingues que nous, on va dire. Et c'est eux qui ont le pouvoir aujourd'hui, le pouvoir économique, etc. Donc cette guerre-là, ce changement de paradigme, il risque de durer des temps qui sont plus à l'échelle de l'histoire que celle d'une vie d'homme.
Rome ne s'est pas faite en un jour, c'est une certitude. Hein. on sait très bien que c'est un combat de longue
d'ailleurs, haleine. D'ailleurs, Rome n'est toujours pas
fini. Déjà, c'est une évolution permanente comme dans n'importe quelle société. C'est sûr et certain. Bon, moi, je pense qu'il y a une vague de fond quand même, hein, qui arrive depuis maintenant un certain nombre d'années. Hein. C'est pas non plus tout jeune. On n'est pas les premiers à inventer ça. D'ailleurs, le Parti Pirate ne dit pas qu'il invente quoi que ce soit. On essaie de trouver les bonnes idées et de leur donner de la résonance. C'est vraiment l'idée. Donc,
idées qui ressortent, on parlait tout à l'heure de l'horizontalité, idées qui ressortent aussi dans d'autres partis plus établis. Oui. On ne va pas reparler de la démocratie participative du PS, des idées comme ça. Voilà. Donc ces idées sortent un peu, sur le net aussi, mais vous en reparlerez jeudi, parce que jeudi je ne peux pas être là. Et donc voilà, l'évolution, ça, on sent que ça monte.
Puis ça pourrait bouger plus vite que ça ne bougeait auparavant. Alors concernant cette journée du 404 Democracy Not Found, il y a un site internet qui a été mis en place, www.404democracynotfound.org, qui rassemble l'ensemble des initiatives locales, qui est ouvert à tous, etc. Il y a même un Twitter avec le hashtag #404DNF qui sera utilisé. Pour l'instant, il y a beaucoup de contributions sur le site.
Alors, nous, sur Montpellier, on peut pas vraiment savoir ce qui s'est passé au niveau du terrain, vu qu'on n'a pas pu participer à cette journée-là. On n'a pas pu mobiliser assez d'adhérents sur ce jour-là. Au niveau d'Internet, bon, c'est en train d'être pris en compte. On attend de voir vraiment ce qui va en ressortir.
Voilà, actuellement, il y a pas mal de choses qui sont sur ce site. Je vous invite à aller y faire un tour. Alors concrètement, au niveau de cette réorganisation là ici à Montpellier, et puis on va dire plus généralement sur l'internet. Alors il s'agit d'une part de rassembler tous les sites internet, parce que c'est vrai que toutes les sections locales sont pas encore recensées sur partipirate.org, qui est le portail national. Donc l'idée, c'est en ce qui concerne les outils internet, de faire quelque chose qui regroupe, on va dire, au sein d'un même portail, toutes les toutes les sections locales, c'est ça ?
Voilà, oui. Alors, je ne vais pas rentrer dans le technique parce que ce n'est pas mon rôle, donc je vais m'embrouiller, mais aussi une architecture de site facile à dépliquer pour permettre à des sections locales naissantes de, le plus vite possible, être identifiées, répertoriées et fonctionner dans le même mouvement que le mouvement national.
Concrètement, vous, localement, dans le Languedoc-Roussillon, aujourd'hui, comment vous êtes organisé et comment il faudrait être organisé ? Parce que, bah, je ne sais pas, est-ce que vous avez des gens dans chaque département ou c'est encore en cours de constitution ?
On a surtout des Héroletais, surtout des Montpelliérains. Bon, alors comme excuse, on a la géographie et la construction de Languedoc-Roussillon. Un Perpignanais, il ne va pas se taper 2h30 de voiture pour faire une réunion de 2h. On a essayé de monter une antenne à Nîmes, mais ça prend pas parce que les gens qui étaient des anciens Montpelliérains qui sont partis sur Nîmes n'ont pas trouvé de quoi démarrer là-bas et ça s'est essoufflé. Bon,
c'est à développer.
Oui, voilà, c'est à développer.
C'est naissant, le Parti Pirate. Oui. Le Parti Pirate, il a encore 6 ans.
Et nous, ici, on a
6 ans. Et nous,
la
section, elle a à peu près un an.
On est officiel dans quelques semaines.
Donc, à partir de là, c'est sûr que c'est difficile aussi d'avoir tout de suite beaucoup d'adhérents. On est face à d'autres partis qui, eux, sont plus organisés, qui sont plus anciens dans l'arène. C'est sûr et certain. Maintenant, on appelle toutes les personnes de bonne volonté, même intéressées par nos idées sur quelques parties du programme, que ce soit de liberté, de neutralité, de l'économie ou autre, que sais-je, à nous contacter, à nous rejoindre. C'est vraiment comme ça qu'on pourra ensuite monter le meilleur mouvement possible.
Alors, un autre thème qu'on va aborder, c'est le rapport Jospin, une bonne réforme il y a 30 ans, qui semble être à nouveau enterrée, puisque lors des vœux du Conseil constitutionnel du 7 janvier, François Hollande a levé un coin du voile sur les suites qu'il entend donner aux recommandations de ce rapport Jospin. C'est un petit peu timide, un petit peu obsolète.
Ça l'est. Pour moi, totalement. Totalement. Ce qui va en ressortir l'est totalement, à mon avis. Hein, vraiment, je crains bien ça, parce que le rapport avait vraiment des pistes intéressantes. Bon, pour remettre un petit peu, faire un peu d'historique, au lendemain de l'élection présidentielle, notre président François Hollande a mandaté une commission, donc la commission Jospin sur la déontologie et la moralisation de la vie politique. Étrangement, on retrouve ces mêmes termes aujourd'hui, qui défraient la chronique, pour preuve qu'actuellement, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Il a fait en même temps signer une charte de déontologie à ses ministres. Encore une fois, on voit l'effet tout à fait magnifique que ça a eu vu l'affaire qu'on a actuellement sur l'ancien ministre Cahuzac. Hein. Et actuellement, on a également tous des efforts de transparence des ministres, etc. Le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas de contrôle là-dessus. Donc, ils peuvent bien nous dire ce qu'ils veulent sur leur déclaration de patrimoine. S'ils veulent cacher le compte en Suisse qu'ils auront, tant qu'il n'y aura pas de contrôle de l'administration et les moyens de faire ces contrôles, etc., ça ne changera pas. Donc, ce rapport, il est sorti fin 2012, hein, courant novembre 2012. On n'en a pas parlé de suite. Il avait été dit, hop là, on en parlerait plus tard. Là, c'est ressorti avec l'affaire Cahuzac, évidemment, parce qu'il fallait réagir sur le court terme vraiment au choc qu'ont ressenti les Français. Il y avait un certain nombre de bonnes propositions, notamment sur les parrainages. On proposait de passer de 500 élus qui devaient parrainer à 150 000 signatures de citoyens. Ça évite justement d'avoir le problème de certains partis qui disent que les maires sont maintenus par la majorité, enfin par les grands partis de gouvernement, pour ne pas donner de parrainage. On a des autres aspects, évidemment, comme le cumul des mandats, où les ministres ne devraient rien cumuler du tout comme poste. Actuellement, c'est pas le cas. Il y a des ministres qui sont également conseillers municipaux. Pour les parlementaires, ça serait pas d'exécutif local. Ça, c'est ce qui est proposé. Mais à partir de 2017, alors que le rapport Jospin proposait 2014, là aussi, on se pose de grosses questions là-dessus. Et les parlementaires qui quand même cumuleraient avec un mandat de conseil municipal, le rapport propose qu'ils ne touchent pas la double rémunération, uniquement celle de parlementaire. Pour moi, ça me semble évident. Un élu peut avoir le droit de s'intéresser à sa vie locale, mais il n'est pas là pour accumuler les indemnités. C'est à lui après de faire vraiment ce choix-là. Donc il y a un certain nombre de propositions qui déjà étaient intéressantes, mais relativement timorées. Par exemple, on ajoute 10% de proportionnel de l'élection des députés. C'est bien gentil, mais c'est quelques petites concessions, oui, voilà, etc.
C'est un peu faiblard. C'est d'ailleurs dans le rapport, il y a un exemple, un candidat au présidentiel qui aurait fait 10% au premier tour se retrouva avec 5 ou 6 députés en plus à l'Assemblée. Bon, passer de mettons, 7 à 8, ça ne change rien quand le seuil pour déclarer un groupe parlementaire est à 25. Si c'est pour en donner 4 ou 5, ça sert à rien, quoi.
Alors, autour de cette question du cumul des mandats, il y a aussi des gens qui disent bah oui, mais bon, la politique, c'est quand même un sacré panier de crabes. Si on mettait que des anges dans l'Assemblée, ben, finalement, il n'en sortirait rien parce qu'il faut savoir se battre, se taper dessus, etc. Enfin, c'est vrai que ce n'est pas un boulot d'enfant de cœur hein, que de rentrer en politique, surtout quand on monte et qu'on arrive au pouvoir. Hein, parce que plus on monte dans le pouvoir, moins on a de pouvoir, finalement, parce qu'on voit bien la marge de manœuvre extrêmement restreinte qui est celle d'un président en fonction, et puis sa marge de manœuvre de candidat où on pourrait promettre monts et merveilles. Mais il y a des gens quand même qui disent bon, alors voilà. Monsieur le maire qui devient député, eh ben, il devient député, donc c'est quelqu'un qui vient, on va dire, du terrain, un élu de local, etc., qui connaît la vie des gens, qui connaît les trucs, puis après il se retrouve législateur et du coup il est plutôt bien inspiré pour pondre des bonnes lois. Alors que si les députés n'étaient que députés, ils se transformeraient finalement en espèce de conseiller juridique ou de juriste tout bêtement, et puis avec leur rémunération à plus de 4000 euros par mois, eh ben, ils seraient totalement déconnecté de la vie de ceux qui gagnent 4 fois moins. Et du coup, bah, ce seraient des législateurs professionnels qui ne sortiraient pas de leur alcôve politico-juridique et qui seraient peut-être un petit peu déconnectés du truc. Alors, que répondre à cet argument qui, dans certains cas, bah, tient la route aux yeux des gens qui ont des députés-maires et qui se disent « Ah bah quand même, ça a bien aidé à avoir... Bah, » Finalement, ça aide bien un maire d'une petite ou d'un village ou d'une grande ville d'avoir une expérience à l'Assemblée dans sa compréhension même des dérouages de ce merdier qu'on appelle la Ve République.
Qu'est-ce que je réponds? Foutaise. Voilà, sincèrement, ça
c'est
fait
pas mal, hein.
Depuis qu'on parle de la fin du cumul des mandats, à chaque fois, c'est ça le premier argument. C'est oui, mais comme ça, mon élu, il aura un contact avec la vie locale, on pourra faire remonter ce qu'on veut au Parlement, etc. etc. Le boulot d'un élu, c'est de déjà faire bien son boulot. Premièrement, s'il ne peut pas être à l'Assemblée, parce que quand on voit certains élus qui sont maires de grandes villes, qui sont présidents de région ou que sais-je, etc., qui quand même un boulot qui prend vraiment du temps.
Voilà, qui vont 10 jours par an à l'Assemblée.
Voilà, comment est-ce qu'on peut justifier qu'ils fassent bien leur boulot parlementaire? Ils doivent quand même voter des lois, c'est l'émanation du peuple, hein, c'est pas n'importe quoi. Et en même temps, faire bien leur boulot au niveau local. Au final, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont se défausser sur leurs assistants au niveau local et au niveau de l'Assemblée nationale, et au final, ce sont pas eux qui font vraiment les politiques. Et on voit des élus qui, en fait, ne votent que ce que le gouvernement a dit de voter. Hop là, ils votent. Le gouvernement ne dit pas de voter, ils ne votent pas. Pas de souci. Donc, qui suivent ça, et il n'y a pas de réflexion en fait du législateur. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a un énorme mélange déjà entre l'exécutif et législatif, parce qu'au final, quand on n'a pas le temps pour traiter ces sujets-là, on vote un peu comme on le sent, etc. C'est un gros problème de démocratie, selon moi. Et quand on voit qu'il y a 470 députés, plus de 470 députés sur 577 qui sont des cumulards, on se dit que quand même, il y a un sacré gros problème dans...
C'est une rente.
Bah, évidemment. Enfin, à la base, l'indemnité du parlementaire, c'est une indemnité. C'est pour l'indemniser de faire ce travail-là. C'est pas un salaire. Et là, on a en plus un cumul de salaire avec... Bon, je rentrerai pas en plus après toutes les petits arrangements entre amis de l'écrétage et de certains députés qui emploient des gens de leur famille en tant qu'assistant parlementaire. Mais voilà, on rentre dans des systèmes où ça devient absolument n'importe quoi. Il n'y a aucune exemplarité là-dedans.
On retrouve toutes les infos là-dessus sur l'article du jour, divergence-fm. Et puis pirate de Montpellier toile-libre.org qui est pas tout à fait à jour.
Non, on est comme on
pas
disait
du tout, mais on attend le
voilà,
le
vous attendez le nouveau squelette
mois.
pour tout ça.
On
et puis partipirate.org pour on va dire toute l'actualité au niveau national. Romain et Lucas, on vous remercie. On va se quitter avec un titre que je trouve moi assez excellent qui tombe à point nommé. C'est Medeski, Martin & Wood qui nous chante Les pirates ne prennent pas de bain. Pirates don't take baths. Merci.
C'est ça.
When I was just a little swabby, I liked two things: getting dirty and playing pirate. Pirates live lives of adventure on the high seas, get as dirty as they want, and they don't take baths. I said I was a pirate, 'cause pirates don't take baths. But my mom said, honey, that's not a righteous path. She said, my dear, you stink, and then she plopped me in the sink. Rub, scrub, scrub a dub dub, head to toe and in between. And now I'm squeaky clean. Still thought I was a pirate, and still could not keep clean. So my dad said, son, you're kind of right, know what I mean? He said, take off those clothes, and then he sprayed me with the hose.
hose. It went squirt, 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 squirt. Ooh, that's cold. The water made me scream. But now I'm squeaky clean. I got a little older, still had that pirate smell. And my teacher, Mrs. Croco, did not like that real well. So when I got to school, she went and threw me in the pool. Splash, splash, splish, splash. Cannonball, it seemed a little mean. But now I'm squeaky clean. Scrub-a-dub-a-dub-a-dub-a-dub-a-dub-a-dub. 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 Now I'm squeaky clean. I'm living my dream on the high seas, and you can do the same. Just be true to your inner pirates, and it's okay to clean up a little now and then. But remember, pirates don't take baths. Scrub, rub, scrub, 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 rub.